Europe 1.
La France bouge, restez avec nous. Nous sommes au Congrès des maires de France. Quel est le rôle du maire dans notre tissu économique? Le maire est-il un entrepreneur pour sa commune? Notre France bouge exceptionnel aujourd'hui avec un invité exceptionnel, le tout nouveau président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Ce sera juste après le point sur l'info. Bienvenue sur Europe 1, il est 13h. L'essentiel de l'actualité avec vous, Émilie Dès. Bonjour Émilie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Nous sommes de votre côté, il faut que la honte change de camp, assure Emmanuel Macron à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Le chef de l'État a annoncé le lancement d'une nouvelle application pour libérer la parole des victimes. Elle viendra compléter le numéro 3018 déjà existant. Le contrôle parental sera par ailleurs installé par défaut sur tous les appareils numériques utilisés par les enfants. Plus d'un Français sur deux se dit favorable au confinement des non-vaccinés, résultat d'un sondage Elab publié ce matin. Mais de confinement, il n'en est pas encore question, souligne Gabriel Attal, alors que plus de 20 000 cas de Covid ont été enregistrés hier en France. Le porte-parole du gouvernement qui indique que des centres de vaccination qui avaient fermé cet été vont reprendre une activité pour aider à la dose de rappel en Europe où le virus circule vite. La Belgique a déjà acté le télétravail obligatoire. L'Allemagne doit trancher aujourd'hui. Le Sénat examine le dernier projet de budget du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour Pierre Moscovici, invité d'Europe 1, le « quoi qu'il en coûte » était justifié pour limiter l'impact de la crise sanitaire sur l'économie. Le nouveau rapport de la Cour des comptes est disponible sur le site internet de l'institution. Le Parlement a définitivement adopté une proposition de loi contre la maltraitance animale. Y figure notamment l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums et la fin de la vente des chiots et chatons en animalerie. Après avoir reçu un millier de maires à l'Élysée, Emmanuel Macron prononcera cet après-midi le discours de clôture du 103e congrès de l'Association des maires de France. Le nouveau président de l'AMF, David Lisnard, s'exprimera juste avant. Le maire de Cannes, qui sera l'invité de La France bouge dans un instant. Les licences de pêche, toujours sujet de tension entre la France et le Royaume-Uni. La ministre française de la mer dénonce l'absence de volonté de coopérer de Jersey. Annick Girardin assure préparer des plans de sortie de flotte pour indemniser les navires français qui n'obtiendraient pas de licence. 46 demandes d'autorisation sont encore sans réponse et 52 licences ont expiré le 31 octobre. Et puis Emmanuel Macron sera reçu par le pape François le vendredi 26 novembre à Rome. Ce sera la deuxième visite du chef de l'État depuis le début de son quinquennat après celle de juin 2018.
Europe 1.
13h02 sur Europe 1, l'heure de retrouver La France bouge.
Merci Émilie Dès, on vous retrouve à 14h pour un prochain point sur l'actualité.
La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre bulle d'optimisme. Chaque jour, entre 13h et 14h, nous découvrons des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent et qui ont l'audace d'avancer, même quand on leur dit que ce sera impossible. La France bouge avec vous, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes au congrès des maires de France à Paris, porte de Versailles, avec un invité exceptionnel, David Lisnard, le tout nouveau président de l'Association des maires de France.
Et oui, les maires, des acteurs indispensable pour l'attractivité des territoires. Peut-on parler d'entrepreneur au plus proche du terrain quand on parle des maires? Quel est finalement le rôle du maire en 2021? On parle de tout cela depuis le stand des chambres de commerce et d'industrie situé là, en plein milieu de ce salon des maires de France.
À la une en effet nos villes et nos rues. Comment lutter contre la pollution lumineuse et réduire les dépenses de l'éclairage public? L'innovation du jour, c'est la technologie Luciole pour effage. Des réverbères intelligents qui éclairent au juste besoin. On découvre cette pépite d'ici quelques minutes.
Alors, je me dis que vous connaissez sûrement le service civique. Vous savez, ce dispositif créé il y a 10 ans qui permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans de s'engager dans des associations et des services publics de collectivité. Ce sera notre saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge. Un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, avec la CCI, nous avons retenu Ariz. Jérémy souhaite mettre de l'hydrogène vert partout dans nos villes. Pour cela, il propose des solutions 13h45 pour les connaître.
Ah tiens, vous parlez de la Chambre de commerce et d'industrie, Elisabeth. Elles aussi, ce sont des acteurs indispensables sur le territoire. Comment sont-elles aux côtés des entreprises et aux côtés des maires? Eh bien, on va s'intéresser à cela avec le patron des CCI, Pierre Goguet, qui sera sera notre invité en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans la France Bouge. C'est parti, gros plan sur nos villes, sur nos mers. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
La France bouge au congrès des maires de France, c'est la 103e édition. On vous l'a dit, on est sur le stand des chambres de commerce et d'industrie. On débute avec eux là cette saison, notre nouveau Tour de France. Et on l'a fait là, on avait envie d'être là pour cette émission spéciale sur les maires, premier acteur de la dynamisation économique de notre pays.
Bonjour David Lisnar.
Bonjour.
Vous venez tout juste d'être élu président de l'association des maires de France. Vous avez gagné à 62%. Quel est le message des maires de France qui ont massivement voté pour vous ?
C'est le message de la volonté de décider, tout simplement, de sortir de la dévitalisation locale que l'on a connue depuis une quinzaine d'années par différentes évolutions législatives qui ont privé de ressources fiscales, de responsabilités fiscales, et d'être efficace. Les maires, vous savez, sont des praticiens. Un praticien, c'est quelqu'un qui prend des décisions dans la tourmente, au quotidien, et qui se documente, comme dans la médecine. Et ce que l'on souhaite, c'est être partenaire de l'État, un partenaire loyal, un partenaire libre, un partenaire exigeant, tout simplement pour répondre aux objectifs d'un bon service public local, universalité du service pour les usagers, défense des contribuables dans un pays qui malheureusement est beaucoup trop fiscalisé et engoncé dans les surcharges administratives.
Alors justement, Emmanuel Macron doit s'exprimer, hein, là cet après-midi devant vous, devant les maires. On nous parle d'un discours de la réconciliation, c'est le cas ?
Moi, je me pose jamais dans ce terme, de ce type de débat. Moi, je me concentre sur ce que les maires ont à dire. Il y aura la résolution de l'Association des maires de France qui a été adoptée à l'unanimité du nouveau bureau ce matin, donc toutes tendances confondues, qui sera prononcée. Puis je prononcerai mon propos. On n'est pas là ni pour se fâcher ni pour se réconcilier. On est là entre adultes pour faire valoir ce qui nous paraît le plus pertinent en termes d'organisation des pouvoirs publics.
David Lisnar, vous parlez de dévitalisation des communes. Ça veut dire quoi, la dévitalisation ?
Ça veut dire que, par exemple, lorsque vous souhaitez décider de la construction d'une crèche ou d'une école, vous ne pouvez plus le faire parce que vous n'avez plus les ressources, alors que les contribuables locaux assument leur devoir fiscal. Ça veut dire que si vous voulez installer un panneau solaire sur un équipement de déchets, comme j'ai voulu faire à Cannes, vous retrouvez planté parce que la DREAL, service régional de l'État, s'oppose, alors que les autres services de l'État vous ont dit oui, mais que parallèlement, vous êtes dévitalisé de votre pouvoir d'urbanisme puisque vous ne pouvez pas vous opposer à une éolienne sur votre commune.
Alors on peut pas, vous le dites, mais comment on va faire pour que ce soit possible ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? La bureaucratie française ?
Ah, c'est un vaste sujet, cher ami. Mais oui, ce que l'on pense, c'est qu'on n'est pas condamné à cette surcharge administrative. L'administration, c'est bien, ça veut dire qu'on est une grande civilisation, mais point trop, comme toujours. Un chiffre tout simple. Toutes les fonctions purement de back-office administratif représentent entre 30 et 35% des effectifs en France. 35% dans l'hôpital. En Allemagne, qui est un pays très administré, c'est 25%. Dans l'Union européenne, qui est le continent le plus développé sur le plan administratif au monde, c'est 24 ou 23%, voire 22%.
Vous voulez dire qu'il faut remettre des agents sur le terrain, c'est ça que vous dites ?
C'est-à-dire qu'on pourrait avoir moins de charges pour les contribuables et plus de services publics sur le terrain, avec des agents qui auraient plus le sens des missions et qui seraient mieux rémunérés.
Et ça, sans dépenser plus. On l'a révélé ce matin sur l'antenne d'Europe 1, par exemple, une note de la Cour des comptes sur la police qui disait la masse salariale a augmenté de 21%, le nombre d'agents a diminué pour autant. Et donc, ce que disait le président de la Cour des comptes.
Je vais me jeter dessus, mais ça illustre parfaitement.
Voilà. On ne manque pas de moyens, mais on manque d'une redistribution
intelligente des moyens. Vous avez 450 000 agents qui sont occupés à des surcharges administratives parce qu'on doublonne les échelons de compétences, parce qu'on multiplie les schémas directeurs, parce qu'on a cette folie qui consiste à penser que tout ce qui vient du haut est bon et tout ce qui vient du bas est suspect.
Alors à quelle place doit être l'État par rapport aux communes là en 2021 et la suite est 2022 bien sûr.
L'État doit être... D'abord, nous sommes tous partie prenante de l'État. L'État, comme dirait l'autre, c'est nous tous.
C'est vrai.
Et donc l'État doit assumer son rôle de police régalien, de liberté publique, d'instruction publique, d'égalité des chances, d'aménagement du territoire. Donc l'État, c'est particulièrement important. Nous sommes un État-nation. En revanche, l'État ne doit pas s'occuper des décisions communales, doit veiller au respect des dispositions d'ordre public et doit être un partenaire des communes. Mais les communes n'ont pas à être les forces supplétives ou les forces exécutives de décisions verticales.
Alors justement, quel est le rôle du maire en 2021 ? Aujourd'hui, comment on reprend les commandes et quelles sont les missions principales ?
Le rôle du maire, c'est le rôle historique de la commune en France, qui est le maillon fort de la République française. c'est le dernier lieu d'acculturation, le creuset social. Un maire, c'est quelqu'un qui recoule le tissu social tous les jours, qui veille à l'égalité des chances en essayant de développer la culture et le sport sur son territoire. Donc le rôle du maire, c'est un habitant parmi les habitants, mandaté par les habitants, pour assumer des missions qui sont les siennes. Et c'est pour ça que, comme je crois, moi, à la liberté, à la force créatrice de la liberté et de la responsabilité, nous avons besoin de retrouver nos capacités d'action en matière de protection du patrimoine, en matière d'urbanisme, en matière tout simplement d'aménagement de nos communes. Et donc de ne pas être noyé dans des grands ensembles systématiquement.
Et comment donner envie alors d'être maire dans une petite commune aujourd'hui, quand on sait qu'il y a tout à faire, on sait que les budgets sont de plus en plus réduits, avec une augmentation de la charge de travail, comment on va pouvoir leur redonner envie?
Ça aussi, c'est une très bonne question.
On essaye de temps en temps.
Je crois qu'il suffit d'aller parler avec les maires pour comprendre la réalité extrêmement dure qui est affrontée, mais aussi le côté absolument passionnant de ce mandat. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai toujours fait le choix lorsque des propositions m'ont été formulées. Je suis toujours resté sur ma commune et dans le mandat de maire, dans le mandat local. Parce que c'est un mandat d'exécution, c'est un mandat concret, c'est un mandat de réalisation. Ça nécessite une incarnation physique. Vous savez, je pense qu'il faut toujours raisonner de la façon suivante. Dans les 17 000 communes de moins de 500 habitants, s'il n'y avait pas les maires et les adjoints et les conseillers municipaux, qui aurait-il pour veiller au service public, à l'universalité du service public? Personne. C'est-à-dire qu'au départ, la question s'est posée à un moment donné. On aurait, à la place d'avoir des maires choisis, on aurait des fonctionnaires subis, et au bout d'un moment, ces fonctionnaires se retrouveraient dans les villes-centres. Donc le maire, c'est le plus beau des mandats. Ce sont les PME de la République. On ne distribue pas du profit, on distribue de l'intérêt général.
Les maires sont les PME de la République. On va continuer à en parler avec vous, David Lisnard. Vous êtes le président de l'Association des maires de France. Et vous restez avec nous.
Europe 1. Nous sommes depuis le congrès des maires de France avec le tout nouveau président de l'Association des maires de France, Europe 1, qui a posé son studio, qui a été invité même par les chambres de commerce et d'industrie en plein milieu de ce salon des maires de France.
L'éclairage public est un des postes de dépenses les plus importants pour le fonctionnement des collectivités territoriales. Il représente plus de 40% de leurs factures électriques, alors même que de nombreux réverbères éclairent souvent la nuit entière pour de rares passages de passants ou de voitures. Ainsi est né Luciole, il y a 4 ans. Bonjour Fabien Magrin.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet sur toutes les solutions de performance énergétique pour Eiffage Energy System. Et vous allez nous expliquer ce qu'est Luciole. Hein. Pour faire simple, Luciole éclaire au juste besoin, c'est ça?
Exactement ça, et c'est un peu plus que ça en fait d'ailleurs, parce que Luciole, c'est surtout la contribution de deux branches du groupe Eiffage, Eiffage Route d'un côté et Eiffage Energy System, qui ont pour vocation justement de faire travailler ensemble leur savoir-faire pour optimiser au maximum l'éclairage public. En fait, on pense au-delà du simple métier de l'éclairage public, on réfléchit comme un système ensemble pour la voirie.
Mais comment ça fonctionne? Parce que je crois que la route est technologique et elle détecte les passants qui passent, et ça permet comme ça de générer un éclairage public, comme disait Elisabeth, au juste besoin.
Ça, en fait, on va tirer le meilleur de plusieurs technologies. Donc déjà, une route claire qui est réfléchissante.
Alors pour nous, béotiens, une route claire, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ah, alors déjà, une route, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange...
Ah bah la route, je sais, mais la route claire, je ne sais pas.
Alors, la route, c'est un mélange de cailloux et de colle, pour faire simple. Et traditionnellement, la colle, c'est un dérivé du pétrole, donc un produit qui est plutôt sombre. Et les ingénieurs des Fageroute ont développé une route qui est plus claire, et donc du coup, qui a la propriété photométrique de réfléchir davantage de la lumière. Donc on peut abaisser en conséquence la puissance des luminaires pour qu'ils réfléchissent mieux la lumière et que de cette façon on consomme moins d'énergie. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est que nous, notre métier, ça va être de sourcer les meilleurs fournisseurs pour arriver à trouver des luminaires qui ont la performance énergétique la meilleure. Et la troisième brique, c'est effectivement ce que vous avez décrit, la détection de présence pour éclairer au juste besoin quand il y a des usagers sur la voirie.
Donc si on comprend bien, grâce à votre technique, ça signifie qu'on peut réduire l'énergie de 20 à 30% et donc ça fait faire des économies à... Bah, nos maires.
Alors c'est pas tout à fait les ordres de grandeur. Par rapport à un éclairage à sodium qui représente aujourd'hui le standard en France, on va avoir des abaissements de puissance de l'ordre de 60 à 80% d'énergie. Donc, c'est quand même considérable. Par rapport à la LED qui aujourd'hui qui est en train de devenir le standard, qui se répand de plus en plus, on va aller chercher encore les 20, 30, 40% d'économies d'énergie supplémentaires qui vont permettre d'avoir une offre qui est aujourd'hui imbattable en termes de performance énergétique.
Et on n'est pas dans le domaine de demain, ça existe déjà. Je crois que vous êtes déployé à Rennes, Limoges, Levallois, Metz, vous êtes dans plusieurs villes, dans l'Hérault aussi, je crois, c'est ça?
On t'a dit exactement, oui, effectivement. À chaque fois avec des variantes pour s'intégrer au plus possible aux contraintes et aux particularités locales.
Du coup, ça permet de faire des économies, comme le disait Elisabeth, sur le long terme. C'est-à-dire qu'au début, ça coûte plus cher, j'imagine, à produire parce que c'est nouveau. Mais en revanche, ça permet de faire des économies aux mairies et d'être dans ce que cherchent les mairies aujourd'hui, l'environnement.
Alors exactement, vous avez cité la contrainte budgétaire, effectivement, vu qu'on va utiliser le meilleur d'un ensemble de technologies, ça coûte un peu plus cher. À fin de vie du projet, il faut savoir qu'on arrive à l'équilibre. Les économies d'énergie engendrées arrivent à permettre de faire en sorte que le projet, le coût du projet est similaire à un projet classique. En plus de ça, par contre, on a tous les bénéfices environnementaux. Donc, on l'a dit, vu qu'on consomme moins d'énergie, en proportionnel, on va gagner autant en bilan carbone, ça c'est la première chose. Les routes claires réfléchissent la lumière, mais du coup réfléchissent aussi la chaleur. Donc ça évite les effets des îlots de chaleur. Ça va lutter aussi contre la pollution lumineuse parce qu'on éclaire moins. Donc ça a aussi des avantages pour la biodiversité. Ça va éviter de nuire sur...
On se demande pourquoi il n'y en a pas partout quand on vous écoute. Hein.
Ça coûte cher.
Et ben là, ouais, là, non. Non, non, parce que vous vous souvenez, il y a juste une contrainte. Donc c'est le contrat budgétaire, c'est un peu plus cher au début, au lancement du projet, mais à la fin de vie, on arrive à l'équilibre. Donc effectivement, il faut une capacité d'estimation qui est un peu supérieure. Et la deuxième contrainte, on l'a dit, hein, c'est effage route, effage énergie. On a réfléchi conjointement effage route, effage énergie, c'est-à-dire que dans les villes, il faut qu'il y ait des personnes qui arrivent aussi à se projeter conjointement et à dire on va rénover la voirie et l'éclairage à l'endroit où la voirie et l'éclairage sont vétustes.
Bien évidemment. David Lisnard, vous êtes le président de l'Association des maires de France, vous êtes l'invité exceptionnel de cette France Bouge aujourd'hui. L'écologie, ça fait partie aussi plus que jamais du rôle du quotidien des maires. C'est vous finalement les premiers acteurs de ce changement nécessaire ?
Oui, les maires sont très proactifs en la matière, d'ailleurs au-delà là aussi des tendances partisanes. L'écologie, elle nécessite une double action, une action, d'ailleurs comme souvent dans la vie, une action globale et une action locale. L'action globale, c'est celle de veiller à l'adoption de normes environnementales à l'échelle planétaire. On sait très bien aujourd'hui qu'on se bat en Europe pour réduire notre bilan CO2, mais que tout s'effondre lorsque l'on voit l'ouverture des centrales à charbon en Asie ou ailleurs. Donc il y a une action globale nécessaire, y compris diplomatique, très forte. On en a eu quelques exemples récemment. Et puis localement, on voit bien la dynamique de l'initiative, de la recherche, de la science. On ne réglera les trois problèmes actuels écologiques majeurs que sont la part anthropique du réchauffement climatique, la biodiversité et la réduction de la biodiversité et les particules fines que par la science et par l'innovation. Et c'est ce qu'exprime le témoignage qui vient d'être porté, qui lui aussi va se heurter avec vos routes éclairées à des contraintes normatives, puisqu'il y a un troisième paramètre au-delà de l'amortissement et de l'économie du tout entre la partie amortissement et la partie... dépenses de fonctionnement, réduction des dépenses de fonctionnement. Il y a aussi les obligations normatives. Les technocrates ne disent pas d'éclairement sur certaines fonctionnalités de route. Donc vous avez des routes, vous êtes obligé d'avoir un éclairage classique pour répondre à des obligations légales de sécurité routière.
Donc là encore, beaucoup trop de normes qu'il faut décloisonner.
Mais la norme, c'est bien lorsque ça permet d'avoir une complexité productive, lorsque une norme permet d'être en meilleure accessibilité pour les personnes handicapées, lorsqu'une norme protège la santé de nos enfants sur la qualité des jouets. Donc il ne s'agit pas d'être contre les normes, il s'agit d'être contre l'excès de normes et surtout contre cette norme qui, a priori, génère toute initiative. Je disais tout à l'heure qu'on était malheureusement passé d'un régime de liberté à un régime d'autorisation dans beaucoup de domaines au plan local.
Et vous, c'est la liberté hein, que vous prenez, David Lisnard. On va continuer à parler de tout cela. Fabien Magrin, merci d'être venu nous présenter votre projet Luciole. Je rappelle que vous êtes le chef de projet sur ces solutions de performance énergétique pour Eiffage Énergie Système. Merci à vous.
Et en effet, David Lisnard, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h, toujours depuis ce stand des chambres de commerce et d'industrie.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Une France bouge exceptionnelle qu'on a le grand plaisir avec Elisabeth Assayag de vous présenter depuis le congrès des maires de France. C'est la 103e édition. C'est où ça ? Eh bien, c'est Porte de Versailles à Paris. Et notre invité exceptionnel, c'est David Lisnard, qui est le maire de Cannes et qui est surtout le tout nouveau président de l'Association des maires de France. David Lisnard, on va parler un petit peu logement parce que c'est l'un des gros problèmes en France. On n'en produit pas assez, on n'en produit pas assez de bonne qualité. Est-ce que le maire bâtisseur, c'est aussi l'une de vos principales missions et là-dessus, vous pouvez agir.
Oui, d'abord en faisant entendre que maire bâtisseur, ce n'est pas maire bétonneur.
Non,
c'est pas la même chose.
J'ai utilisé le mot positif.
Tout à fait. Mais vous savez, tout part de la signification des termes et de leur impact. Deuxième élément, qu'on est face à de grandes injonctions contradictoires en la matière, puisque d'un côté, il y a de plus en plus de protection face aux risques d'inondation ou autres. J'en sais quelque chose. Et parallèlement, on est obligé de construire des logements. Là aussi, il faut constater que plus on a encadré et schématisé le logement, notamment dans le cadre des lois SRU ou ALUR, moins il y a eu de production de logements. C'est-à-dire que si on fait.
Mais parfois, on dit aussi que les maires ne donnent pas assez de terrain au-delà de la normes. Certains maires ne veulent pas qu'on construise pour le bien de la communauté parce que ça va poser des petits
soucis. Il n'y a pas un maire qui ne veut pas essayer de régler le problème du logement des habitants. Le maire, il doit aussi respecter la non-artificialisation des sols, qui est une obligation légale maintenant, qui se met en contradiction avec la construction. Et je pense que ce que le Sénat a proposé récemment est très pertinent, c'est-à-dire pour rendre les lois type SRU beaucoup plus adaptables, de créer avec les préfets et les maires des contrats locaux avec des objectifs quantifiés, mais qui ne sont pas figés dans des obligations légales qui sont totalement déconnectées des réalités territoriales. Donc le logement, le transport, ça fait partie des grandes aspirations légitimes de beaucoup d'entre nous, mais à force de vouloir réserver tout le foncier à du logement social, on a asséché le logement de type pour les classes moyennes et le marché en zone tendue, c'est vrai à Paris, c'est vrai partout, est très très difficile. Donc il faut retrouver un peu de respiration.
Mais justement, à l'aune du Covid, on a l'impression que de nombreuses, et puis on l'a constaté, les chiffres sont là, que de nombreuses personnes ont quitté les grands centres-villes pour miser sur des villes de taille plus moyenne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, David Lissner, pour l'attractivité de nos territoires? Parce que ça aussi, l'enjeu est immense.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour la qualité de vie, d'abord, qui est une priorité majeure des habitants, et aussi pour l'attractivité locale. Mais attention, le phénomène risque de ne pas être confirmé à l'avenir. Il y a quand même des phénomènes de métropolisation. Le nombre de déserts médicaux a été multiplié par deux en 20 ans. Et a beaucoup augmenté la suppression de services aux habitants, pas que des services publics d'ailleurs. Ça part d'un distributeur de billets à un bureau postal ou à une recette fiscale. Donc un receveur fiscal. Donc il faut. On sait, la tendance aujourd'hui, elle n'est pas clairement définie. On doit retrouver.
Vous pensez que c'est une sorte d'épiphénomène?
Non, pas forcément. Je crois qu'il y a une aspiration profonde au retour à de l'espace. Mais vous voyez bien que les messages sont contradictoires lorsque la ministre Mme Wargon vous dit. Il faut sortir du rêve du pavillon avec un jardin, alors que ça va à l'encontre des aspirations de beaucoup d'habitants. Et là aussi, injonction contradictoire. Pardonnez-moi de le dire, mais le zéro artificialisation nette qui est contenu dans la loi, de façon très verticale, a bloqué beaucoup de projets de développement dans les communes rurales qui avaient un regain démographique, puisque nous devons, d'ici février prochain, revoir tous les schémas d'urbanisme, donc au regard de la loi, dont les SCOT, etc., enfin tous ces acronymes qui ne parleront pas aux auditeurs, et ils ont bien raison. Mais voilà, donc là-dessus, oui, il y a une aspiration, c'est une source d'espoir. Je crois, moi, à la modernité des villes moyennes et des communes rurales, mais on en revient à ce que je disais au préalable, à condition que les maires puissent travailler.
Et là, justement, ces villes de taille plus moyenne, où il y a peut-être des déserts médicaux, est-ce que les maires sont prêts à accueillir ces nouveaux habitants, à leur offrir ce logement, à faire en sorte de faciliter l'intégration dans les écoles, l'emploi?
Bien sûr, j'ai parcouru quasiment tous les départements dans le cadre de ma campagne pour l'AMF, et le nombre d'initiatives, mais d'ailleurs, grâce à vous, on en connaît beaucoup, et votre émission est très souriante et positive, et fait du bien. Mais il y a une multitude d'initiatives, mais aujourd'hui, on a des projets d'école ou de logement qui de facto sont figés, sont bloqués, en attendant donc l'actualisation de tous les schémas d'urbanisme qui s'imposent à nous dans le cadre de la loi du 22 août dernier, qui prévoit zéro artificialisation nette. C'est une réalité que beaucoup de maires ici pourraient évoquer. Alors, c'est pas forcément visible, mais c'est une des injonctions contradictoires que l'on reçoit.
Une ville a une image, comme certes, finalement un peu une marque employeur. On le voit à travers notamment ce que vous faites, vous, à Cannes, chaque matin lors de votre tournée matinale. Est-ce qu'une ville peut devenir, je ne sais pas si ma question va être claire, mais une sorte de marque citoyenne? Est-ce qu'elle doit le devenir?
Oui, si... Marc, ça renvoie à marché. Tout n'est pas marché, mais la marque, c'est quoi?
C'est l'image.
C'est une identité connectée à un marché. Donc une ville, elle n'est pas connectée à un marché. En revanche, Les villes-marques existent et celles qui sont en compétition, on le voit en tourisme d'affaires, on le voit dans l'événementiel et on le voit pour attirer les capitaux. Donc la notion de marque territoriale, elle est très importante, elle est très prégnante. Et l'effet positif, c'est que ce qui part au départ du marché renvoie aussi un sentiment d'appartenance. Ça renforce le sentiment d'appartenance et c'est ce qui est prodigieux dans les communes, c'est qu'on arrive à vraiment nous retrouver comme une communauté de la République française, quelles que soient notre conditions et nos origines, par ce sentiment d'appartenance locale. C'est ce que Pierre Manon, le philosophe, appelle les communautés d'expérience.
Un sentiment d'appartenance et de fierté. Est-ce que vous pensez qu'à la façon des entreprises américaines, un maire pourrait être noté sur le respect de ses actions?
J'espère que chaque citoyen évalue son maire sur le respect de ses engagements. Mmh. Ça me paraît une saine démocratie. Que dire de plus ? Ensuite, à chacun de voir comment il évalue le rôle du maire et à nous, en tant que citoyens, d'être aussi cohérents à l'égard de ce que l'on attend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander d'un côté de baisser les dépenses, ce que je fais dans ma vie chaque année, et d'optimiser les moyens de la mairie, puis d'un autre côté, demander qu'on recrute tous les gamins de la famille à la mairie. Quoi.
Chaque jour, dans La France Bouge, David Lisnard, on prend le temps de découvrir un produit, un endroit, une association qui est là depuis plusieurs années, qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, c'est une agence de l'État, c'est un patrimoine d'engagement pour celui qui le fait. Bonjour Béatrice Engrand.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes la présidente de l'agence du service civique, je tiens à le préciser, première présidente, malheureusement, on doit encore le préciser. Le service civique a été mis en place en 2010. C'est une expérience qui permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans de s'engager dans des associations, à des services publics de collectivités. Il y en a beaucoup qui le font, il n'y a pas de condition de diplôme.
Absolument. C'est un élan. Donc le service civique qui a été créé en 2010, a permis déjà à plus de 500 000 volontaires de s'engager, de donner du temps pour des causes, le développement durable, la continuité pédagogique, la santé, en échange de cet engagement donné pour des causes dans des associations, dans des services publics, dans des collectivités territoriales. On va en parler. En échange, le jeune reçoit une formation ou des formations et un tutorat et dans le cadre du plan de relance, nous avons reçu des moyens supplémentaires pour permettre à plus de 100 000 jeunes, donc 245 000 en 2021, de s'engager dans des missions. Donc c'est une communauté très importante. Et on voit dans les collectivités, vous parliez de marque citoyenne, les missions de service civique servent à enrichir cette marque citoyenne des collectivités, des communes et des intercommunalités.
Après la crise que nous avons vécue, ou que nous sommes en train de vivre, est-ce que vous sentez un regain de l'engagement ? Parce qu'on s'est tous sentis peut-être un petit peu à se dire « je pourrais peut-être aider, il y a tellement de besoins en ce moment ».
En quoi puis-je être utile ?
Alors pendant la crise Covid, on a tous en mémoire tous ces jeunes qui sont allés aider les personnes âgées dans leur cage d'escalier à faire les courses, qui se sont déclarés bénévoles pour aller faire des maraudes. Et cet engagement-là, cet élan, évidemment, il continue très fortement et nous enregistrons pour le service civique un nombre
on
de...
On peut avoir une idée de la hausse que vous pouvez avoir en ce moment
Par rapport à 2019, qui est l'année de référence pour nous, c'est plus de 40%. Plus de 40% de candidatures et d'entrées en mission. Donc, c'est vraiment considérable. Et on doit vraiment être tous au rendez-vous pour offrir des missions de qualité à ces jeunes. Et c'est pourquoi on considère que les collectivités territoriales, communes, intercommunalités en priorité, sont une cible de développement prioritaire et privilégiée. Et je crois qu'on réussit pas trop mal, puisque depuis un an, ce sont plus de 400 communes supplémentaires qui ont obtenu l'agrément service civique, dont 150 dans la ruralité, ce qui n'est pas si facile à faire. Donc on est vraiment sur la bonne voie.
Vous pouvez être fier de vous. David Lisnard, le service civique est placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Là aussi, le rôle du maire est primordial. Vous-même, en tant que maire de Cannes, vous avez remis au centre le latin et le grec dans les classes de primaire. Tout ça, c'est important pour vous ? Ça fait partie du rôle du maire ?
Oui, alors là, vous renvoyez à une multitude de sujets sur le service civique donc, qui existe depuis, de mémoire, la loi du 10 mars 2010 et qui peut être connecté au service universel également, puisqu'on a accueilli 160 jeunes à Cannes pour le service universel et si on passe à certains délais, on peut se traduire en service civique. D'ailleurs, je le dis, Madame la Présidente, l'Association des maires de France sera particulièrement proactive dans les prochaines semaines, si vous le souhaitez, pour qu'on ait plus de mairies.
J'ai l'impression qu'avec les yeux, elle vous dit un grand oui. Là.
Qui est l'agrément, et je connais votre beau combat en la matière. Et c'est effectivement dans le cadre d'une démarche globale. Moi, mon premier ouvrage que j'avais écrit s'appelait « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme ». Et je pense qu'en la matière, nous proposons à Cannes, et ça marche très très bien, y compris notamment dans les quartiers populaires, l'apprentissage du grec et du latin, de la maternelle jusqu'au CM2, payé par la mairie, de même que des cours de philosophie pour apprendre la raison critique, à dialoguer, à controverser, mais de façon civile et respectueuse. Et puis, nous sommes la première ville française 100% éducation artistique et culturelle. On en est très fiers. On a 18 000 enfants qui, de la maternelle jusqu'au supérieur, grâce à l'investissement de la mairie, pendant le temps scolaire, reçoivent une éducation artistique et culturelle de qualité et savent pourquoi ils sont réunis au sein de la nation française autour d'un patrimoine des grandes œuvres de l'esprit.
Elisabeth a dit première présidente du service civique. Il faut plus de mères femmes aussi.
Oui, il faut plus de vocations, de femmes et plus d'électeurs. Voilà, C'est, ça évolue. Enfin, c'est,
bah, timidement quand même, non ?
Les choses la difficulté, si vous voulez, dans les grandes villes, vous avez une parité stricte homme-femme.
En revanche, quand on descend un peu, c'est quand même moins bien respecté.
En revanche, oui, mais parce que tout simplement, il y a aussi des réalités de vie quotidienne et qui sont en train de.
C'est beaucoup, beaucoup de temps être mère aussi. Béatrice Augrand, avant de vous quitter, si vous deviez faire votre service civique, vous feriez quoi, vous ?
Immanquablement, une mission de service civique dans le domaine du développement durable à Cannes.
Voilà. On vous laisse discuter après hors antenne. Merci à vous.
Recruté, madame.
Béatrice Augrand, merci d'être venue ici dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Agence du service civique.
Et David Lisnard, le président des maires de France, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin exceptionnel jusqu'à 14h, toujours depuis ce salon des maires de France et depuis ce stand de la Chambre des commerces et d'industrie.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Une France bouge spéciale et exceptionnelle depuis le congrès des maires de France. Les maires sont-ils des entrepreneurs ? On a entendu tout à l'heure que, en tout cas, le maire était le représentant de la PME de l'État d'une certaine manière au niveau local. Notre grand témoin, c'est David Lisnard, le tout nouveau président des maires de France. On va s'intéresser maintenant à nos trophées de l'avenir Europe 1, la France bouge. Parce que là aussi, il y a une myriade de pépites dans ce domaine et notamment dans ce salon des maires de France. Il y a un nombre de stands là juste autour de nous assez impressionnant et on a bien évidemment emmené avec nous Nathalie Carré, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie qui va apporter ses précieux conseils dans un instant.
Et une fois de plus, un projet dans la France bouge lancé depuis le début de l'année, là, 2021. Bonjour Jérémy Dacosta.
Bonjour.
Vous avez 32 ans, vous êtes le cofondateur d'Azir, hein, c'est ça ?
Dariz.
A-R-H-Y-Z-E, c'est bien cela. Vous êtes producteur indépendant d'hydrogène renouvelable. Ce n'est pas un hasard, puisque vous, pendant 10 ans, vous avez baigné dans l'univers de l'éolien, du solaire. Vous avez monté votre boîte, vous travaillez déjà avec quelques collectivités. Alors, c'est quoi Ariz ? C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Alors, Ariz, c'est un jeune producteur d'hydrogène renouvelable. Notre rôle à nous, c'est d'identifier les usages de l'hydrogène et de travailler avec les collectivités locales et les entreprises pour déployer des écosystèmes. Alors, pour cela, nous portons des projets de production et de distribution et accompagnons ces acteurs du territoire dans la décarbonation de leur mobilité et de leurs procédés industriels. Alors chez Ariz, nous développons des projets d'hydrogène 100% renouvelables à partir d'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable locale, qu'elle soit éolien, photovoltaïque ou hydraulique. Nous attachons aussi de l'importance à l'acceptabilité de nos projets. C'est pour cela que nous impliquons très en amont l'ensemble des acteurs, mettons en place du financement participatif et nous engageons à long terme sur les territoires. En étant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, c'est-à-dire le développement, l'investissement, la construction et l'exploitation, Ariz se positionne en fait comme un acteur indépendant de ce nouveau vecteur énergétique et agit avant tout pour la décarbonation des territoires.
Et ben voilà, vous avez fait beaucoup moins que d'une minute. Bravo à vous.
Peut-être aller un peu vite.
Non, c'est très bien, c'était très clair. Je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Jérémy.
Bonjour
Emmanuel.
Alors, vous avez étudié, analysé comme chaque jour les candidatures de nos trophées de l'avenir. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous d'Ariz ?
Bah déjà, c'est bien vu, le côté petite unité locale de production, ça permet d'aller vite et de rendre les collectivités autonomes. Et puis, vous avez pour proposer un accompagnement de A à Z, même avec le financement du projet. Alors, les points améliorés, ou plutôt les suggestions, puisque vous démarrez, commence à y avoir du monde quand même sur ce sujet, avec de très grands acteurs.
On commence à démarquer.
C'est une bonne blague, Elisabeth.
Tous les jours.
Donc, une proposition. En fait, il y a 50% des communes qui ont entre 500 et 10 000 habitants, avec des écoles à chauffer, des mairies, des salles de fête, etc. Donc, des besoins énergétiques, mais probablement pas d'expertise au niveau des équipes, au niveau du conseil municipal, et peu de temps et peut-être pas de sous. Du coup, pour elles, il faudrait simplifier, expliquer. Vous pourriez imaginer, par exemple, des PAC par taille de commune ou d'ensemble de communes avec des cas d'usage pour qu'elles se rendent compte. Des cas d'usage qui présenteraient une vidéo 3D de l'usine de production, les explications des prérequis pour l'installer, les explications des applications possibles, le détail des travaux et la durée, parce qu'il va falloir convaincre aussi la population des travaux, une évaluation précise des bénéfices pour la collectivité, mais les habitants aussi, une explication d'un plan de financement possible et bien sûr, votre rôle. Bref, tout ce qui permet de montrer qu'avec vous, la transition écologique est possible, même quand on est petit.
C'est toujours brillant ce que nous dit Nathalie Carré.
Oui, tout à fait.
Non, c'est vrai. Vous êtes présent dans quelques collectivités. Vous êtes là pour l'instant en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, mais vous n'avez pas de site de production encore.
Non, non, les sites de production sont encore rares en France et c'est en train de se développer. On est vraiment sur de l'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau. C'est une technologie assez nouvelle qui coûte encore assez cher, qui bénéficie justement de subventions de l'État pour être développée sur les territoires. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se concentre principalement sur des agglomérations de taille un peu plus grande. Mais à terme, on espère en tout cas pouvoir s'implanter dans des collectivités plus petites.
David Lisnard, vous êtes le patron des maires de France, vous êtes le maire de Cannes. Le développement de l'hydrogène, là encore, c'est le quotidien maintenant quasiment des maires. Ça va être une des énergies de demain pour les mairies.
Indéniablement, l'hydrogène est une énergie d'avenir. Dans l'agglomération que j'ai la charge de présider, nous avons engagé un projet de fabrication d'une unité de réalisation d'hydrogène vert sur notre territoire, assez importante parce qu'on serait à 2 tonnes jour de production d'hydrogène vert, donc par électrolyse. L'hydrogène est vert s'il est connecté à une source électrique elle-même renouvelable, donc soit à l'hydroélectrique, soit des énergies renouvelables, soit du nucléaire qui est à zéro bilan carbone. Je crois que le débat est en train d'être enfin tranché en la matière. Donc c'est un projet que dans notre agglomération de 75 millions d'euros de mémoire qui a été retenu par l'ADEME et pour équiper progressivement d'ici 2032 les 100 bus de l'agglomération. Mais je voudrais aller plus loin, notamment sur tous les véhicules de collecte des déchets ménagers. Alors il faut trouver le sens économique à tout cela, le sens écologique. Maintenant qu'on fait de l'hydrogène vert par électrolyse, on l'a trouvé. Il faut trouver maintenant l'équilibre économique et c'est ce que nous sommes en train de travailler avec les services de l'État.
Vous validez un projet comme ARIS, David
Lisnard? La compétence ou pas pour valider, mais je trouve ça formidable. Voilà,
il est dans la mouvance de
la proactivité, c'est l'innovation, c'est pertinent, c'est ça qui nous fera gagner le défi environnemental.
Il est dans la mouvance de cette chaîne complète de mobilité décarbonée. Hein. Merci à vous, Jérémy Dacosta. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de ARIS. Merci d'être venu dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance surtout.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Nathalie Carré. J'étais très heureux de partager mon micro ici depuis ce stand de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous savez quoi? On va recevoir votre patron dans un instant. Vous avez un message à lui faire passer?
Je voudrais bien un deuxième micro, en fait, ce serait plus simple.
Et ben, en tout cas, on vous garde tous. Et si vous aussi voulez venir présenter votre projet, c'est très simple. Une seule adresse, mais le1-lafrancebouge@europe1.fr.
Et suite et fin de votre émission avec notre invité exceptionnel, David Lisnard, le tout nouveau président de l'Association des maires de France. Vous restez encore avec nous quelques minutes?
Avec plaisir.
Allez, on y va.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Émission spéciale toujours depuis ce salon des maires de France et depuis ce stand des chambres de commerce et d'industrie avec notre témoin exceptionnel, David Lisnard, le président de l'Association des maires de France qui est tout fraîchement élu.
Bonjour Pierre Goguet.
Bonjour.
Vous êtes le président des CCI France à la tête du réseau des 122 CCI. Merci de nous recevoir sur votre stand des CCI. On démarre, hein, nous aussi, à La France Bouge, notre tour de France des chambres de commerce et d'industrie, ici au sein du Congrès des maires de France. La CCI qui est le partenaire des maires et qui est aussi l'un des acteurs clés pour l'attractivité économique des territoires. Alors justement, on va être concret. Vous travaillez avec l'État ou l'AMF, par exemple, pour redynamiser les centres-bourgs. Que proposez-vous très concrètement, Pierre Goguet?
Bien, écoutez, d'abord, je voulais féliciter le nouveau président de l'Association des maires de France, Monsieur Lisnard.
Merci, Monsieur le Président.
Je me réjouis, effectivement. Nos organisations ont l'habitude de travailler ensemble, effectivement. En fait, pour nous, le maire, c'est l'entrepreneur des territoires, à l'instar, effectivement, de nos chefs d'entreprise. Et l'ADN territorial est essentiel. Donc, l'idée, c'est évidemment de bâtir dans un collectif territorial tous les moyens de développer l'attractivité, et évidemment avec des produits adaptés, observatoires, voilà.
Et alors concrètement, c'est quoi cette boîte à outils là, pour tous ceux qui sont en train de nous écouter?
On a quelque part pu monter, grâce à des pratiques territoriales, à rassembler les meilleures pratiques, qui consistent quelque part à créer effectivement autour de la revitalisation commerce-centre-ville, par exemple, autour de développement de zones industrielles, autour de la transformation numérique et écologique, des outils qu'on tient à la disposition évidemment de l'ensemble des communes et des territoires, et clairement qui permettent de bénéficier d'un retour d'expérience et d'une adaptation grâce à nos entrepreneurs et aux collectivités.
Vous êtes une sorte de trait d'union entre tous les acteurs, ou de facilitateur, ce serait peut-être mieux de le dire ainsi.
C'est en fait, clairement, on a la possibilité de mettre en commun les meilleures pratiques observées dans tous les territoires et de les tenir à disposition de chaque collectivité et de chaque territoire. Et ça a été le cas pendant cette crise avec ce qu'on appelait les marketplaces, les places de marché, le click and collect, par exemple, qui a permis à nos commerçants de continuer à travailler. C'est des choses qu'on a montées avec les collectivités et qui sont effectivement toujours en évolution. Je pense qu'on est en clair quelque part. Le collectif territorial nécessaire pour s'adapter, notamment aux mesures nationales, hein, parce que les mesures nationales n'ont de sens que si elles sont adaptées à chaque territoire.
Alors là, on a les solutions, mais en ce moment, on parle énormément de problèmes de recrutement, notamment au sein des commerces, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Comment vous voyez la situation du côté des CCI ?
Si vous voulez, vous savez que les CCI ont environ 140 écoles de formation, dont 90 centres d'apprentissage. Et notre job, c'est de détecter au plus près de chaque territoire les besoins en recrutement et de former, quelque part, les cohortes de jeunes qui vont permettre en employabilité. Je prends un exemple souvent, qui est de dire le meilleur CFA à la fibre en France. Il est à Aurillac, dans le Cantal, et on l'a monté, finalement, en fonction de besoins.
Et on est allé le voir à la France.
On était ensemble à Aurillac.
On est allé à Aurillac.
Et ça, on est capable de le faire dans tous les territoires. On est en train de travailler, ça a été évoqué précédemment, sur les formations nécessaires pour la filière hydrogène. Parce qu'il va falloir des jeunes, des nouveaux pour la maintenance, le développement, la commercialisation. Et tout ceci se fait évidemment là aussi dans un collectif.
Dans un collectif, est-ce que vous avez l'impression, avec la nouvelle génération de maires qui a pu arriver aux commandes ces derniers temps, qu'il y a une nouvelle dynamisation ? Est-ce que vous le sentez sur ce salon ? Parce que, pardonnez-moi l'expression, mais pour vous, c'est presque du commerce ici. Il faut que vous convainquiez les différents maires de travailler toujours plus avec vous.
Écoutez, on a d'abord signé des partenariats de longue date. Par exemple, hier, je signais avec la DCF et son président un renouvellement d'un partenariat. On a déjà signé 1000 conventions environ dans les trois dernières années, avec l'ensemble des patrons des territoires et des maires et des collectivités. Et ceci est en développement, parce que les besoins sont de plus en plus importants. Quelque part, l'idée, évidemment, c'est d'avoir des territoires gagnants. Et tous les territoires sont en compétition. Donc il faut que l'écosystème des entrepreneurs, évidemment, aide au maximum, pousse pour effectivement développer les spécificités et l'attractivité des territoires. Le haut débit est un élément clé pour nos territoires, hein, clairement. Les tiers-lieux aussi.
On développe des tiers-lieux
partout, des places de cours.
Quand on est arrivé ici, Elisabeth m'a dit qu'il faut qu'on fasse une émission sur les tiers-lieux, le premier stand qu'elle a vu en arrivant.
Oui, ils sont nécessaires pour tous ceux qui sont un petit peu sur le bord de la route, notamment. En ce moment, on disait, David Lissnard, on parle de ces problèmes de recrutement. Vous y êtes très attaché, tout ce qui concerne la restauration, l'hôtellerie, les commerçants. Est-ce que le maire entrepreneur, le maire chef d'entreprise, comment peut-il aider pour favoriser tout ça et répondre à ce besoin?
Alors d'abord, c'est au secteur marchand de répondre à cela. Il y a une grande profusion d'organismes de formation. Moi, je crois à la réalité entrepreneuriale. Deuxièmement, le maire, en vertu du principe de subsidiarité, il est aussi... Moi, j'ai un CFA municipal à Cannes. Hein, c'est un des rares CFA municipaux en France qui fonctionne extrêmement bien. On crée des bouchers, des fleuristes. Enfin, voilà, on forme les jeunes. Moi, ma fille aînée a été apprentie dans la restauration. Elle a monté son bistrot, etc. Donc, c'est une réalité. Ensuite, il faut faire attention parce qu'il y a des métiers en tension et on a 1 million d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, ce qui est quand même un comble dans un pays qui a un fort taux de chômage. Mais parallèlement, on n'a jamais eu aussi autant de fermetures de vitrines de commerce dans les centres-villes, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en place. Donc il faut revoir toute la fiscalité sur le commerce de proximité, car aujourd'hui, nos commerçants de proximité sont assommés de charges d'impôts beaucoup plus que d'autres formes de commerce.
Merci à vous, David Lissnard. Merci d'avoir été notre grand témoin du jour, invité exceptionnel. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de l'Association des maires de France. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie. Merci à Pierre Goguet, président de la Chambre de commerce et d'industrie France. Vous êtes à la tête du réseau des 122 CCI. Merci à toute l'équipe technique. Je sais que ça n'a pas été simple à mettre en place. Merci à vous tous. Emmanuel, on se retrouve demain.
Et bah pour profiter de tout cela, on va partir en vacances demain. On sera avec la patronne d'e-voyageurs. Si vous n'avez pas vos billets de train pour Noël, pressez-vous, il paraît que les trains sont complets. On va vérifier cela demain dans La France Bouge.
Allez, à demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.